une conférence spéciale qui nous vient de un organisme qui s'appelle C'est Juste et qui cherche à aider les chrétiens à donc amener la semence de justice, la lumière de l'Évangile dans toutes les sphères de la société et de leur vie. Et nous avons parmi nous une conférencière, donc c'est Madame, excusez-moi, Madame Agnès Noubissier qui est travailleuse sociale et qui va nous parler du sujet qu'on a annoncé et qui est comment Dieu veut nous aider à soigner la santé mentale de nos enfants. Donc, sans plus tarder, donc Agnès... Oh, c'est Jean-Denis d'abord qui va nous parler de l'organisme et ensuite tu vas appeler notre conférencière. Donc, on a ici un pupitre pour Agnès. Tu peux aller où tu veux, mais le micro est là.
Bonjour à tous. Alors, c'est incroyable. Vous êtes tellement chanceux d'avoir Marc comme pasteur. Alors, je ne sais pas pour vous, il est tellement plein de vie. Quand il parle, il met la vie à la place. Moi, depuis que je le connais, depuis 2009 que je le connais, il était directeur de GBU à ce moment-là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Quand il vous rencontre, il vous parle, c'est comme si vous vous étiez vu hier soir. Il y a une grande chaleur qui se dégage. Merci, Marc, de te laisser transformer ainsi par le Seigneur et de te mettre à sa disposition. Je suis très heureux de te connaître et à chaque fois que je parle avec toi, je suis vraiment béni. Merci de ce que le soutien que le Seigneur t'apporte aussi dans ce travail ici. On est très reconnaissant envers lui, mais très reconnaissant qu'au milieu de toutes tes responsabilités familiales, professionnelles, tu prends du temps pour travailler, amener des gens vers le Seigneur. Que le Seigneur te fortifie ainsi que toute ta famille dans ce travail. C'est juste de tout cœur avec toi, je pense que tu le sais, et on le redit encore publiquement, et si nous t'apprécions énormément, et voilà. Vous êtes vraiment chanceux de l'avoir comme pasteur. Alors, belle journée pour engager une réflexion sur la santé mentale. Alors, vous voyez, je suis parti de chez moi aujourd'hui en bottes, parce que chez nous, il neigeait vraiment beaucoup. Les flocons étaient vraiment gros et on a dû déblayer la voiture pour pouvoir quitter. Oui, effectivement, Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pensez que j'allais dire Cameroun? Hein? Non, c'était Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, c'est bien Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, c'est un abrégé de « semence de justice ». Alors, comme Marc le disait, c'est un organisme qui veut engager une réflexion, donc mobiliser le corps du Christ à une réflexion sur les problématiques qui concernent la société, qui concernent notre communauté. Nous procédons de deux façons, donc, et qui se déclinent par deux verbes, agir. Donc, agir comment? C'est-à-dire semer. Donc, semer, mettre la graine. Et comment mettre la graine, mais ce sont des réflexions, ce sont des pensées que nous mobilisons ensemble pour pouvoir aider l'Église. Et semer encore comment? Deuxième verbe, être. Donc être nous-mêmes des semences dans nos communautés, dans nos familles, donc refléter Christ dans nos familles. Donc on a principalement trois missions que je vais énumérer ici. Donc comme j'ai mentionné, mobiliser les chrétiens à la réflexion et à l'action face aux enjeux des transformations sociales qui ont un impact sur leurs croyances. Deuxième mission que nous donnons, observer la vie de la communauté et supporter les églises et associations chrétiennes dans leur mission. Comme nous sommes ici ce matin, ça a été un cri du cœur de Marc. Comme j'ai dit, Marc, vous êtes vraiment chanceux de l'avoir, qui nous a contactés, dit « Mais regarde, j'ai un besoin ». J'aimerais qu'on puisse adresser ce besoin dans mon Église et c'est pour ça qu'on le fait ce matin. Et troisième mission, c'est développer et mettre à la disposition de la communauté des outils et des ressources pour répondre à leurs besoins. Donc, la conférencière en parlera tantôt aussi de quelques outils qu'on pourrait utiliser pour faire face aux défis de santé mentale. Notre engagement, c'est d'organiser et promouvoir des activités de recherche et d'éducation à la justice à travers des conférences, des colloques de réflexion sur des thématiques actuelles. En guise de recherche, on est tous dans le mouvement, on est tous engagés professionnellement, donc on n'a pas beaucoup de temps nous-mêmes en tant que membres de consacrer à la réflexion et à la recherche. Donc nous avons donc convenu, nous avons donc noué une convention avec l'ETHEC, je ne sais pas si vous connaissez l'école de théologie, on a noué une convention avec l'ETHEC et nous supportons les étudiants qui engagent des recherches dans des thématiques dont nous faisons la promotion. Donc toutes les thématiques en lien avec la société, la communauté, nous soutenons. On a soutenu une thèse de maîtrise qui a été faite sur l'engagement social comme un lieu de croissance spirituelle. Et présentement, on est en train de financer encore une bourse toujours avec l'ETHEC pour une dame qui travaille sur la problématique du divorce au sein de l'Église. Et on veut continuer à soutenir également d'autres recherches qui se font à l'Église. En thème de conférences, on en a organisé plusieurs. On en a organisé sur l'aide médicale à mourir. On en a organisé sur les problématiques de l'immigration. Parce que vous savez, les questions d'immigration sont très souvent adressées par rapport à la société d'accueil. Mais parfois, il n'y a pas un intérêt sur l'individu en lui-même. Donc, on a fait une réflexion pendant quelques années là-dessus aussi. Et il y a eu d'autres conférences. Vous pourriez vous référer à notre site qui est en construction, mais qui est quand même... qui regorge déjà quelques informations. Si vous y voyez quelques coquilles, sachez qu'on est en train de travailler. Ce sera corrigé dans les prochaines semaines. En thème de conférence, on en a une qui s'en vient. Et Marc m'a dit que ce serait vraiment très intéressant pour plusieurs ici. C'est la gestion de l'écran à la maison. Donc la gestion de l'écran, et ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Au mois de juin, nous organisons une thématique là-dessus. Donc, on pourra donner plus de détails à Marc, qui pourra diffuser ici à l'église. Au mois d'octobre, donc le 18 octobre, c'est une date importante, nous avons un gala annuel qu'on fait chaque année. Et c'est toujours au cours de ce gala-là qu'on va présenter les boursiers de l'année. Donc, ceux qui ont reçu une bourse, on va les présenter à ce gala-là. Et les boursiers vont prendre la parole pour dire ce sur quoi ils vont travailler, ils ou elles vont travailler au cours de l'année. Donc, vous pouvez l'inscrire à votre agenda, on vous donnera d'autres informations et puis vous joindre à nous. C'est une soirée de réjouissance, c'est une soirée festive, donc on vient habiller chic selon les thèmes de la soirée, mais c'est vraiment une belle sortie de couple. Vous ne voudrez pas manquer ça. Et il y a les mamans qui dansent souvent à ces galas-là. Apparemment, c'est très apprécié. Donc, si vous voulez voir quelques danses africaines, ce serait un bon moment de le faire. Et je pense que je n'oublie rien. Et si vous aimez manger, au mois de novembre, on a un brunch gratuit. Vous pourriez vous joindre à nous. C'est sur la rive sud. Ce n'est pas si loin. Nous, on a fait la marche jusqu'ici aujourd'hui. Vous pourriez vous rejoindre à nous dans un cadre familial. On pourrait avoir un bon temps pour partager ensemble. Donc voilà principalement pour ce qui est de ces justes. Je vais présenter, Marc a présenté Agnès Noubissier tantôt, mais moi je vais présenter Maman Agnès. Je préfère vous dire comme ça, plus affectif, et je pense que ça colle bien avec le thème. Donc, elle est mère de 5 enfants, donc merveilleuse enfant, elle vous en dira certainement plus que moi, mais elle est aussi grand-mère. Donc, elle sait de quoi elle parle. Parce qu'elle l'a vécu elle-même, elle a été confrontée elle-même en tant que mère, en tant qu'individu, en tant que parent à ces problématiques-là. Donc, elle travaille aussi quotidiennement dans ses journées. Elle est travailleuse sociale sur la santé mentale au CLLC, sur la rive sud de Montréal. Et en plus de ça, elle enseigne à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais avant aussi à l'Université de Sherbrooke sur ces problématiques-là. Donc, c'est une grâce pour nous d'avoir des personnes comme ça au sein de l'Église. Et c'est juste venant mobiliser des compétences comme ça pour qu'on puisse réfléchir sur des problématiques. Donc, si il y a un domaine qui vous intéresse, ça vous pique, dis-moi, j'aimerais approfondir ça d'un point de vue chrétien, mais joignez-vous à nous dans ces justes. J'ai laissé à l'arrière quelques pamphlets, quelques pamphlets vous pouvez en prendre et vous pouvez communiquer avec nous. Il y a nos coordonnées sont marquées sur le document. Alors, je vais laisser Maman Agnès pouvoir continuer. Merci de votre attention. Que le Seigneur bénisse. Je vais terminer par une parole de Jean, l'apôtre Jean, qui nous dit, le Seigneur souhaite que nous soyons, que nous prospérions à tous égards et que nous soyons comment? En bonne santé. Amen. Amen. Donc, je vais laisser Maman Agnès poursuivre.
Est-ce que vous pouvez chanter un petit chant pendant que je m'embrouille avec la... Est-ce que je ne retrouve même pas mes choses? Vous voulez pas un petit chant? Bonjour, bonjour tout le monde. Je me sens vraiment très honorée d'être ici ce matin. Et j'étais assez stressée, figurez-vous. Donc, une chose qui m'a beaucoup plu hein, quand je suis arrivée, il y a Mimi qui m'a dit, j'ai prié pour toi. Oh, que ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Une simple parole comme ça, mais qui fait du bien. Inattendue, mais qui fait du bien. J'ai beaucoup aimé aussi... la façon dont on a été accueillis avec Mélodie et puis tous les autres à qui m'ont ouvert la porte, je me sentais comme une reine. C'est vrai que je suis une princesse quand même, mais je me sentais comme une reine. Donc, je pense que beaucoup de choses ont été dites me concernant. Est-ce que vous voulez que j'en dise d'autres? Est-ce que vous voulez me connaître davantage?
Est-ce que tu es grand-mère?
Mais ça l'a déjà été dit.
Non, mais moi, je veux savoir votre secret.
Mon secret? La connexion avec Jésus. Ben, merci beaucoup, Marc, hein, de cet honneur que tu nous as fait. C'est juste d'être ici ce matin et en particulier de t'être intéressé à quelque chose que je porte à cœur. C'est vraiment pour moi la réponse à ma prière par rapport à la formation que j'ai faite en santé mentale. Figure-toi, Marc, qu'il y a 2 ans, je suis allée au Cameroun et que je portais ce fardeau. Je suis arrivée au Cameroun et puis j'ai dit, je voudrais venir dans les églises parler de la problématique de santé mentale. Le peuple du Seigneur périt faute de connaissances. Et j'ai dit, moi je vais vous faire ces conférences gratuitement. Hein. Je voudrais que le peuple de Dieu sache. Sur toutes les églises où j'ai fait ce SOS, aucune église n'a répondu. Aucune église n'a répondu. Je parle de ça avec beaucoup d'émotion parce que je me dis, mais mon Dieu, ce n'est pas possible. Merci Marc. Qui est-ce que je suis comme personne? J'ai donné ma vie à Christ en 1983, ça fait 42 ans. J'étais très, très jeune à l'époque. Dans une atmosphère, une ambiance où j'étais étudiante, hein, et je vagabondais comme ça aussi, en vivant comme une jeune fille très belle à l'époque. Je reste toujours une très belle femme, hein, ça je le reconnais. OK? Mais qui n'était pas préoccupé forcément parce que c'est qu'être en Christ, mais j'ai donné ma vie à Christ dans ce tourbillon-là. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un ami quand je suis arrivée au Cameroun qui m'a dit, mais Agnès, tu es encore dans ces choses-là? Je lui ai dit, cher ami, on ne change de route que lorsqu'on s'est trompé de chemin. Je ne pense pas m'être trompée. De la même façon que je suis avec cet homme-là il y a environ 38 ans, Roland, mon bien-aimé, et que je dis, mais on ne reste pas avec quelqu'un 37 ans ou 38 si on ne pense pas avoir trouvé la bonne personne. Vous ne demeurerez pas avec Christ si vous ne savez pas que vous avez trouvé la vérité. Et aujourd'hui, je vous dis, oui, Jean-Denis l'a dit, je suis maman de 5 enfants, 5 merveilleux enfants, je bénis tellement le Seigneur, parce que ces 5 enfants, je les ai eus de manière non prévue. Les 5. Au moment où j'attendais, ils ne venaient pas, quand j'attendais, ils étaient là. Donc, j'ai dit au Seigneur, ok, ça va, on vit avec. Et je suis arrivée ici au Québec en 2005, ça va bientôt faire 20 ans, et j'étais complètement perdue. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici, au Québec? Pourquoi je suis là? Mais le Seigneur, lui, savait. Moi, je ne savais pas, hein, et lui, il savait. Donc, quand je quittais le Cameroun, beaucoup de gens m'ont dit, mais où est-ce que tu t'en vas? Je leur ai dit, c'était ma phrase fétiche. Je vais dans un pays inconnu, mais avec un Dieu que je connais. Aujourd'hui, lorsqu'on m'a dit, je vais parler de cette chose. J'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a des parents d'enfants dans cette maison? Dans cette maison ici? Des parents d'enfants? Est-ce qu'il y a des enfants de parents? Autrement dit, tous, nous sommes des enfants. Et j'aurais pu élargir et demander, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette maison? Ah, ah. Super. Autrement dit, cette conférence nous intéresse tous. OK? Mais sauf que parler de la santé mentale, j'avoue que c'était quand même un petit peu délicat lorsqu'on m'a dit, Dieu veut la bonne santé de nos enfants. C'était vraiment large. Je lui ai dit, oh my God, je demande à Jean-Denis combien de temps que j'ai? Il me dit 50 minutes. J'ai dit, par quel miracle je vais aller en 50 minutes parler de thèmes qu'on parle dans des ateliers sur des journées. Mais je me suis dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la sagesse de donner l'essentiel. Donc aujourd'hui, vous aurez l'essentiel. Soyez attentifs. Donc, Jean-Denis l'a dit, j'enseigne aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le programme de santé mentale. Et plus précisément, j'accompagne les étudiants en fin de stage en santé mentale, en travail social. Généralement, les étudiants, là, j'ai enseigné aussi la méthodologie en travail social. Des fois, là, j'avais des groupes de 48, et souvent, quand je parlais, ils somnolaient. C'est des cours de 3 heures. Mais je vais vous dire une chose, parce que quand je travaillais au CLSC, j'ai créé ce qu'on appelait le slow zumba, le slumba. Okay? Et donc, généralement, lorsque les étudiants font les petits malins, là, ils somnolent, je les fais danser un petit peu. Donc, on va checker un peu. Si je me rends compte qu'il y a des gens qui somnolent un petit peu, je vais demander à la sœur là, d'entonner un chant, là, et puis on va danser. Mais je pense parce qu'on va être rendu de là. Je prends beaucoup de temps pour vous dire simplement que soyez attentifs. Le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Donc, aussi, quels sont mes objectifs aujourd'hui? J'espère que ça va marcher, hein, le piton. Là, il faut ouvrir, par exemple. OK, super. Ce que je me suis dit vraiment, c'est ces objectifs que je voudrais atteindre aujourd'hui, c'est vraiment que nous puissions acquérir davantage de connaissances concernant la santé mentale. Que nous puissions également être informés des conséquences du stress sur la santé. Que nous puissions explorer quelques pistes pour prévenir les impacts négatifs du stress sur l'enfant. L'enfant étant ici, dans ce contexte-ci considéré, j'ai pris les plus jeunes. Hein. Je sais que nous sommes des enfants aussi, des enfants de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, on est arrière-grands-parents, mais on est enfant pareil parce qu'on est l'enfant de son père. Mais ici, là, moi, j'ai dit vraiment que je vais prendre les plus jeunes. Je vais davantage m'appesantir sur les plus jeunes, bien que la problématique puisse aussi s'élever aux adultes. Et enfin, j'aimerais qu'on identifie ensemble des avenues possibles pour avoir et garder une bonne santé mentale. Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous? Super. Donc, le plan que je me suis donné, c'est d'abord de parler de la famille, parce que tous nous appartenons à une famille. Tous. Que nous soyons grands-parents, parents, que nous soyons enfants, nous appartenons à une famille. Donc, je vais m'appesantir là-dessus, puis je vais explorer la santé mentale d'une manière générale. C'est quoi la santé mentale? De quoi parle-t-on? Généralement, je travaille en atelier. Comme ça, ça fait un petit peu plus bouger les méninges. Mais compte tenu du temps, malheureusement, je vais vous, vous donner encore d'être un petit peu obèse par rapport aux connaissances hein, que vous avez. Mais surtout, attirer votre attention sur la mise en pratique de toutes les connaissances que vous avez, que nous avons. Aussi, je vais m'appesantir sur quelles sont les conséquences et la manifestation justement du stress hein, dont on parle ou de l'anxiété chez le jeune. Et puis, je vais voir avec vous les avenues que nous pouvons avoir. La façon que je vais procéder, c'est que je vais vraiment beaucoup parler, mais sentez-vous à l'aise de m'interrompre pour des questionnements, pour des choses un petit peu plus explicites, ou si je dévie avec un langage plus académique que familier, pour que vous puissiez comprendre, parce que des fois, je peux aussi me perdre dans les explications. Donc, c'est quoi la famille? Et je voudrais vraiment partir de... Ah, j'avais oublié même de prendre mes... Des fois, là, quand je commence à parler, j'oublie même que j'ai des choses que je peux lire. Tellement je suis emportée par... je voudrais que tu passes à la prochaine diapo, s'il te plaît. Ça ne va malheureusement pas se voir. Je trouve ça très dommage, mais je pourrais laisser la diapo. La diapo pour que...
Mais j'aimerais... On peut la rendre disponible. On peut garder le PowerPoint disponible.
Oui. Si oui, 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 bien sûr. Parce que... Mais là, je vais parler... Mais si vous permettez, je vais prendre quand même mon petit piton là. Donc, ici là, c'est vraiment un tableau qu'on appelle le tableau d'Olson. Okay? Quelle que soit la famille... dans laquelle vous évoluez, vous appartenez à un groupe de familles, ok? Donc ici, là, le Olson parle, vraiment, vous n'allez pas voir, mais je vais essayer de lire pour vous. Non, non, je ne veux pas faire passer, moi je veux juste utiliser ce piton-là.
Le point n'apparaîtra pas sur l'écran.
Ah ouais? Ah ouais, bon, décidément la techno, hein, bon. Ben, écoutez, je vais essayer de lire, prêtez juste une oreille attentive, hein. Ben, j'avais pas prévu ça. Mais on va se débrouiller. On est quand même intelligent, donc ça va aller. Donc, d'une manière générale, ce qui s'est dit, c'est que dans les premières années de la vie, il y a des éléments importants qui participent au bien-être de l'enfant. Donc, l'enfant appartient à une famille. Et dépendamment de comment la famille fonctionne, ça va impacter l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Ah, ok. Ben, moi, là, j'aime que restez éveillé. Donc, selon le schéma que je vous donne là, il y a deux variables qui vont influencer la communication au sein de la famille. Ok? La capacité d'adaptation et la capacité de cohésion. Ok? Donc, lorsque je mets là à gauche, moi, j'ai l'adaptabilité et puis tout juste à l'horizontale, il y a la cohésion. Okay? L'adaptabilité, la capacité d'une famille à s'adapter à certaines situations, et puis la cohésion, comment ça se passe au sein de la famille. Et au sein de l'axe horizontal, qui est la cohésion, il y a quatre possibilités qui vont se passer. C'est-à-dire qu'il y a une famille où les personnes sont désengagées. Désengagées, c'est-à-dire que vous avez un besoin très infime de proximité, vous êtes indépendant. Il y a la famille où on est séparé. Okay? C'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine proximité, on est plutôt indépendant. Il y a le fait qu'on soit connecté, vous avez besoin de proximité et vous êtes plutôt dépendant. Et vous avez la particularité d'être enchevêtré. Vous avez besoin d'une grande proximité et vous êtes dépendant. Je prends la peine de l'expliquer parce que comme tu m'as dit Max, c'est-à-dire que ça peut être écouté. Donc quand vous verrez dessus, vous comprendrez parce que j'aurais pu ne pas m'appesantir là-dessus. Sur l'axe de l'adaptabilité qui est à gauche, il y a quatre autres possibilités. On peut être rigide, structuré, flexible ou alors chaotique. Okay? Quand on parle de rigide, ça veut dire qu'on mène avec autorité et on ne prône pas le changement à l'intérieur de cette famille. Okay? Quand on est structuré, on peut partager à la fois le leadership tout en conservant un rôle stable. Vous acceptez le changement lorsqu'il est demandé. On s'entend qu'il y a certains parents... C'est cette règle-là, tu vas la suivre, veux pas. Okay? Il y a aussi la flexibilité. On va partager le rôle de leader. On va accepter le changement lorsque cela s'avère nécessaire. Et enfin, il y a vraiment le chaos. où vraiment il n'y a pas de leadership et on se perd dans le changement. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce cas-là? Selon la position dans laquelle vous vous trouvez dans ce schéma-là, on verra si la famille est plutôt flexible ou rigide hein, quant à sa capacité d'adaptation, ou encore si c'est une famille plutôt indépendante ou dépendante quant à son niveau de cohésion. C'est important de savoir ça. Dans la famille dans laquelle je me trouve, moi comme enfant, ou dans laquelle je suis comme parent, où est-ce que je me trouve? Est-ce qu'il y a assez de rigidité? Est-ce que c'est chaotique? Est-ce que c'est flexible? Où est-ce que je me trouve? C'est l'occasion pour nous de faire une introspection comme parents. C'est important de savoir. Et ici, comme travailleur social, moi, lorsque je viens, je voulais vous faire ce petit exercice-là, mais compte tenu du temps, je me dis, Agnès, laisse tomber, laisse faire. Okay? Parce que je voulais vous demander, quelle est votre capacité ou alors quelle est votre motivation au changement? Lorsque moi, j'ai un usager devant moi qui vient me voir peut-être pour dépression, anxiété, estime de soi, etc., la première chose que je lui demande, c'est sur une échelle de 1 à 10, où 1, je ne veux pas faire d'effort. Agnès, donne-moi juste un bâton magique pour que tout revienne sur la normale. Ou à 10, je veux faire les efforts qui s'imposent pour qu'il y ait un changement. Une des choses particulières que nous avons vues en santé mentale, c'est la résistance au changement. La résistance au changement. Et même les enfants de Dieu, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, ils résistent au changement. Ils résistent à la transformation que Christ veut apporter dans leur vie. Et si vous résistez au changement, vous ne pouvez pas profiter des bénédictions que Dieu vous accorde, des bénédictions que le professionnel qui est en face de vous veut vous donner. J'insistais beaucoup ici et je disais, dans ce schéma, ce qu'on voudrait le plus, c'est que les personnes ou les familles se retrouvent dans la partie du milieu. Dans cette partie du milieu-là, où on a les deux caractéristiques qui vont être au niveau de l'adaptabilité, être flexible, séparé, flexible, connecté, structuré, séparé ou structuré, connecté. Vous pouvez vous demander, parce qu'avec ce petit document-là, ça explique très bien ce que ça veut dire être connecté. Ça veut dire qu'il y a la flexibilité, il y a la proximité, il y a une certaine loyauté, une certaine indépendance. Donc, lorsqu'on est connecté, comme je vous dis là, et structuré, ça veut dire que le leadership est parfois partagé. Le rôle est stable, la discipline est démocratique et le changement est apporté lorsque c'est demandé. Il est important que nous soyons plus dans le milieu. Par contre, je prends un exemple ici. Si nous sommes dans le rigide désengagé, le rigide ici, c'est le leadership est autoritaire. OK? Le rôle de la proposition de changer est rare. La discipline est stricte. Il y a peu de changement. Et aussi, lorsqu'il est dégagé, il y a peu de proximité, il manque de loyauté et les personnes sont très indépendantes. Dans quelle famille ou dans quel secteur vous trouvez-vous? Ou alors que vous vous trouvez maintenant, mais vous avez envie. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas coulé dans du béton. On peut être dans le rigide enchevêtré et virer tranquillement dans le structure enchevêtré et puis après dans le structure connecté. La seule chose qu'il faut ici, c'est notre volonté de changement. Faire le pas, avancer. Et moi, je dis toujours, vous avez été parents, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu vos enfants marcher. Vous avez vu comment ils sont tombés. Ils se sont relevés. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Et moi, je suis partisane de baby step by baby step. Lorsqu'on commence avec le changement, lorsqu'on accepte le changement, sachez que vous commencez avec des pas de bébé. Vous allez tomber. Mais l'important ici, c'est de ne pas rester à terre, mais de se relever et d'avancer. Et donc, lorsque vous avez des enfants, si vous avez des jeunes enfants, j'en ai vu là, qui ont peut-être 4 ou 5 ans, demandez-leur comment ils ont fait pour marcher. Ils vont vous regarder avec de grands yeux pour dire, ben, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que je marche. Parce qu'ils ont oublié même qu'ils sont tombés à un moment. Ils se sont relevés, ils sont tombés à un moment, ils se sont relevés. Que le Seigneur nous aide à commencer par des petits pas de bébé. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est vraiment... S'il te plaît, tu passes là. Dans la famille... La façon dont la famille est composée, dépendamment de dans quel coin nous trouvons avec la famille, ça va impacter le comportement de l'enfant. Donc, il est important que les signaux émotionnels et le comportement que l'enfant nous envoie soient rejoints. Parce que si nous sommes dans une famille où tout est structuré, tout est strict, on ne va pas souvent entendre comment l'enfant nous parle. Qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant est triste, « Ah, toi, tu es toujours triste, c'est quoi ton problème aujourd'hui ?» Hein? Encore t'as mouillé ta couche, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourtant, c'est un message qu'il nous envoie. Mais nous sommes trop distraits dans cette société stressante. Il faut faire vite, là, parce que moi, je dois prendre mon bus. C'est quoi ton problème à faire ta crise, comme tout le temps, la crise? Il fait toujours cette crise. Ah, il me tape sur les nerfs, cet enfant. Mais quel est le message qu'il vous envoie? Soyons attentifs au message que l'enfant nous envoie. Comment est-ce que la dynamique familiale répond aux signaux que l'enfant nous envoie? Comment est-ce que nous répondons à nos propres signaux? Comme je vous ai dit, je suis souvent très emporté dans ces choses, si bien que je risque de dévier un peu de là où je m'en vais. Donc si vous me voyez aller trop, fais-moi signe chérie, s'il te plaît, tu me connais. Donc je voudrais aborder la santé mentale à proprement dit. Comme je vous ai dit, j'ai sauté beaucoup de choses. Hein, que peut-être après, dans les questionnements, ça pourra revenir, mais ne vous inquiétez pas, ça pourrait être répondu. Ok? Même si je passe assez rapidement sur certaines affaires, c'est en regard du temps. Généralement, lorsqu'on fait cette conférence, c'est sous forme d'atelier pour que les gens puissent effectivement retenir les choses. Mais aujourd'hui, je la fais sous forme de conférence, ce qui est différent. Donc, dans le fond, c'est quoi la santé mentale? Parce que je me serais amusé à vous demander c'est quoi la santé mentale. C'est quoi dans le fond? Quel est le courageux qui peut juste me dire c'est quoi la santé mentale? Personne? Vous voulez qu'on danse un peu le Zumba? Donc, je vais vous dire ce que l'Organisation mondiale de la santé nous dit pour ce qui est de la santé mentale. C'est un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Autrement dit, à partir de quel moment faut-il questionner la santé mentale? Écoutez, lorsqu'on n'arrive pas à surmonter les tensions normales, il y a une tension qui arrive, on n'arrive pas à la surmonter. On n'est pas capable d'accomplir un travail productif et fructueux. On n'est pas capable de contribuer à la vie de sa communauté. Ici, pour l'enfant, la communauté, c'est d'abord sa famille. La communauté, ça peut être l'école. Ce n'est pas la même affaire pour l'adulte. OK? Parce que sa communauté est aussi un peu plus vaste. La société d'une manière générale. Mais pour l'enfant, c'est d'abord le cadre où il se sent à l'aise. La famille. C'est important qu'il puisse se réaliser là-dedans. OK? Donc, lorsque l'enfant n'arrive pas à se réaliser, lorsqu'une personne n'arrive pas à se réaliser, lorsqu'il y a un déséquilibre dans la vie de tous les jours, à ce moment, on parle de stress. On est stressé. C'est quoi le stress dans le fond? Un courageux, qu'est-ce que le stress? Bon, tous les jours, là, ouais, oh, je suis stressé, mais ça veut dire quoi le stress dans le fond? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Qui peut me dire c'est quoi le stress? Comment vous comprenez le stress? Parce que vous l'avez utilisé d'une façon ou d'une autre, ça c'est sûr. Qui n'a jamais utilisé le mot stress? Qui n'a jamais utilisé le mot anxiété? Mais dans le fond, c'est quoi? Mais je vais vous dire une chose. Hein. C'est l'ensemble des réactions produites par l'organisme pour s'adapter à une situation précise. OK? Et cela suscite certains mécanismes, certaines réactions, comme la sécrétion de certaines hormones et aussi au plan psychologique, comme la mise en place de stratégies de défense. Donc c'est une réaction normale. Quelle qu'elle soit, nous avons une réaction. Quelle que soit la situation qui arrive, on a des réactions. Quelle qu'elle soit. OK? Mais le problème qui se pose... Pardon, j'ai entendu... OK? Donc, le problème qui se pose, c'est quand le stress devient problématique. OK? Donc, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit la... faudrait me faire signe, hein, peut-être s'il reste 10 minutes, là, pour que peut-être j'accélère. J'ai même oublié de mettre... Vous voyez à quel point je suis stressée, j'ai oublié de mettre mon... de mettre mon horloge. OK? Donc, le stress, c'est la réaction du corps, ça vient de rendre raide, serré, pressé. Ça te presse là. Ça fait mal. C'est la réaction du corps et de l'esprit à toute pression qui ébranle l'équilibre normal. Mais je vais vous dire une chose. Le stress fait partie de notre vie. Lorsque je viens ici, là, et que mon mari me dit qu'il faut que nous soyons là-bas 30 minutes avant, je lui dis, mais pourquoi on doit être là 30 minutes avant? Il me dit, pour que tout soit calme. Mon mari, là, lui, est toujours en avance, là. Je ne sais pas pourquoi. Hein? J'ai dit, ah ouais? Puis là, quand on arrive au feu, là, et qu'on est 20 minutes à l'avance, le stress descend. Il se sent bien, je me sens bien, moi aussi. Donc, nous parlons à ce moment-là de ce qu'on appelle un stress aigu. Parce que c'est spécifique, c'est dû à une situation et après ça passe. C'est ce que nous vivons des fois. Mais à partir du moment où ce stress devient chronique, où il est là, tac, 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 à ce moment, on se pose des questions. On se pose des questions pourquoi? Parce que ce stress-là va susciter en nous certaines émotions. Les émotions que nous allons voir ici, malheureusement, c'est très, très petit. Mais je vais vous parler ici que lorsqu'il y a un stress, on peut avoir quoi? On peut avoir peur parce qu'il y a un déséquilibre. On peut avoir une émotion comme la colère, comme la tristesse, comme le dégoût, comme la surprise, comme la joie ou comme la honte. Comme la honte. La honte peut venir, j'insiste beaucoup là-dessus, d'un stress qui fait en sorte qu'on peut en souffrir. La honte. Et je vous parlerai un peu plus en profondeur plus tard sur le fait que nos enfants à l'école peuvent avoir la honte. La honte qui peut faire en sorte que l'enfant est stressé. Il n'a pas envie d'aller à l'école. Et la honte de qu'est-ce que ses amis vont lui dire? La colère. Parce qu'il y a un de ses amis qui tape ses nerfs. Puis quand il vient à la maison, il boude. Mais encore quoi en toi? C'est quoi ton problème de bouder tout le temps? Tu n'as pas été bien à l'école là? Mais non. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Faites attention de ne pas donner assez de temps à ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'on court après quoi? Je me rappelle, un collègue me disait, ah ouais, il faut travailler, il faut travailler. J'ai dit, moi je ne peux pas travailler pour mon cercueil. Okay? Pour acheter un cercueil à la fin. Je préfère même prendre off et pouvoir juste déstresser chez moi, décompresser et arriver. Plutôt que de travailler comme une dingo. Et puis après, quand je passe je passe l'arme à gauche, l'argent que j'aurai travaillé va servir à faire mes funérailles. C'est des choix, c'est des changements. Attention au stress chronique. Pourquoi? Et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, vous vous reconnaîtrez là-dedans, parce que le stress chronique, je me suis trompée ici, j'ai mis aigu, mais dans le fond, c'est stress chronique, là, c'est-à-dire que quand il s'échelonne, qu'il est mauvais, là, il peut avoir des conséquences sur nous au plan cognitif, au plan émotionnel, au plan physique, au plan comportemental. Peut-être que vous reconnaîtrez là-dedans. Pourquoi au plan cognitif, on perd la mémoire, des problèmes de mémoire. Okay? Combien de personnes m'ont dit, « Ah, oh, moi, j'oublie beaucoup. » Ça vient d'où, ça? « Ah, j'oublie beaucoup. » L'incapacité à se concentrer, ne voir que le négatif, des pensées anxieuses ou accélérées, une inquiétude constante. Faites attention. Regardez si notre ennemi, le stress, n'est pas là-dedans. Des conséquences émotionnelles, pourquoi? Le stress conduit à la dépression. Le stress mène à la dépression. Je demandais tantôt, le stress pour vous, c'est quoi? Mais les gens confondent souvent stress et anxiété. On verra c'est quoi l'anxiété. Le stress mène à l'anxiété. Le stress conduit à l'anxiété. Qu'est-ce que le stress peut avoir? L'irritabilité. Quand votre enfant arrive et qu'il est irritable, sans raison apparente, questionnez-vous sur ce qu'il a vécu en termes de stress. Je ne vais pas toutes les lire, mais je vais prendre les choses essentielles. Les maux physiques. Ah, on a mal partout, on ne sait même pas pourquoi. Je ne sais pas, ça doit être le changement des climats. Je crois que j'ai beaucoup de travail. Attention à ça. Ça peut avoir pour conséquence qu'on ait de la diarrhée, de la constipation, des nausées, des étourdissements, la douleur thoracique. La perte de libido, pour certains, là, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Mais le rhume ou la grippe, ok. Au plan comportemental, on peut manger peu ou on peut manger trop. On peut dormir trop ou on peut dormir peu. On a envie de rien. On a envie de rien. On peut consommer de l'alcool, des drogues, de la cigarette. On va avoir des habitudes nerveuses, genre se ranger les ongles. Hein, quand vous voyez les gens se ranger les ongles, là, surtout les adultes, faites attention. Lui-même n'est pas souvent conscient. « Ah, oh, mais j'ai l'habitude de me ranger les ongles. C'est rien, c'est depuis que je suis tout petit. » Peut-être que depuis qu'il est tout petit, il a une nature stressante, stressée, anxieuse. Il est important de questionner cela. Je voudrais m'attarder un petit peu maintenant là sur l'anxiété. Parce que je vous ai dit tantôt, hein, le stress peut conduire à l'anxiété. OK? Donc, mais c'est quoi l'anxiété dans le fond? C'est un sentiment d'inquiétude ou de malaise. Lorsque le niveau d'inquiétude est assez important pour nuire aux activités quotidiennes d'un enfant ou d'un jeune, on parle alors d'un trouble d'anxiété. Et je voudrais faire la différence entre le trouble d'anxiété et l'anxiété proprement dite. On est tous d'une façon ou d'une autre, des fois anxieux. Parce qu'on dit l'anxiété provient de la peur, un genre d'inquiétude. On peut s'inquiéter parce que là, vraiment, je suis tellement stressé, je risque de manquer mon entrevue. L'anxiété, ça monte. Je suis inquiète. Mon Dieu, si je manque, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Si vraiment, pendant que je sors, là, il y a encore un mètre de pluie, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça monte. Le cœur, il bat. Et il y a certaines personnes qui tremblent, qui en arrivent à trembler parce que l'anxiété, elle monte. La peur, les pensées vont très vite. On parle du petit hamster qui court dans notre tête. Et si on avait un petit piton pour peser dessus, tu dis, lâche-moi. Je vous donnerais ce piton-là, mais je ne l'ai pas, malheureusement. Mais on parle justement, on peut être anxieux et puis ça passe. Mais à partir du moment où l'anxiété devient paralysante, à partir du moment où elle s'éternise, à partir du moment où elle devient vraiment préoccupante, à ce moment, on parle de troubles. Et les troubles que je suis allée voir ici, je vais m'appesantir surtout sur les troubles qu'on retrouve souvent. Hein. Le trouble d'anxiété de séparation. Le trouble. Pas l'anxiété de séparation seulement. Le trouble d'anxiété. Il y a certains enfants, s'ils savent que leurs parents vont aller en vacances, je vous assure que ça devient quelque chose. Et il y a le trouble d'anxiété généralisée. Ça veut dire que ce n'est pas une simple anxiété. C'est beaucoup plus long. On a peur de tout. On s'inquiète. Qu'est-ce que nos enfants peuvent vivre? La phobie sociale, l'anxiété sociale. On a peur de la foule. On ne peut pas sortir. Ça nous paralyse, ça nous tétanise. Le trouble obsessionnel compulsif. Par exemple, quoi? On a peur d'être malade. On se lave les mains toutes les minutes. Hey, là, la COVID, là, ça m'a rendu dingue. Ah non, surtout, il tousse. Oups! Hein? C'est sûr que le microbe, il doit être là. Le mutisme sélectif. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent le mutisme. Vous savez c'est quoi le mutisme sélectif? Vous êtes avec votre enfant de 6 ans, habituellement avec vous, ça va maman, blablabla. Dès qu'une personne arrive, devient muet, parle plus. Mais va dire bonjour, on le pousse, mais il va me faire honte cet enfant. Mais dis bonjour. Il est muet, il parle plus. Ou avec peut-être avec des adultes, peut-être une certaine situation, il parle plus. Il ne veut plus parler. Mais pourtant, dès que... Ah, papa, maman ah, qu'est-ce qui se passe? Faites attention à la façon dont les enfants réagissent. Soyons vigilants par rapport justement au comportement, aux réactions socio-émotionnelles de nos enfants. Ça parle beaucoup, quand on est attentif. Et voilà, je voulais même... Parce que j'ai même oublié de lire mes notes. Pourtant, j'ai plein d'affaires à dire, là, mais je suis partie dans mes... Et je voulais ici voir avec vous quelque chose que je trouvais vraiment important d'adresser. C'est la capacité qu'ont les mamans, n'est-ce pas, de réaliser ou de voir ou de percevoir très facilement quand il y a un changement dans leur enfant. Surtout les mamans. Et là, on parle ici en termes de la réception émotionnelle de l'enfant par rapport au changement de l'enfant. Mais qui fait en sorte que souvent, quand on est dans le brouhaha du stress, on oublie. Ou on ne fait pas attention, ou on fait les petits malins. Parce que justement, ça va nous prendre du temps et de l'énergie. Ça va nous prendre un changement. Mais est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Pour ce que ça va nous apporter? C'est important. Quel changement que nous voulons? Donc ici, là, ça c'est des exemples de troubles. Et moi, je me suis dit, mais écoutez, on est quand même dans une église. Parce que depuis que je parle, là, si quelqu'un est arrivé là, il disait, ben, tout le monde peut parler de cette chose-là. Ben, la santé mentale, c'est quelque chose de courant, de fréquent. La dépression, on en parle beaucoup ici au Québec. Une personne sur cinq souffrira de la dépression dans sa vie. Beaucoup parmi nous ont déjà souffert de dépression. Beaucoup souffriront de dépression. Beaucoup ont déjà manifesté, n'est-ce pas, des signes d'anxiété. Beaucoup manifesteront des signes d'anxiété. Mais on pourrait se dire, ces problématiques qui sont difficiles à accepter. Ah, peut-être que, bon, comme c'est dans la Bible, personne n'en a souffert. Dans la Bible, là, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné. Avec, lorsque je lisais Exode 18, versets 17 à 18, je crois que vous connaissez justement le beau-père de Moïse, hein, qui lui a dit, en fait, quand Moïse en avait beaucoup, hein, il lui a donné un petit conseil. Il dit, fais attention, ce que tu fais n'est pas bien. La façon de vouloir t'accaparer de tout, là, c'est pas bien, fais attention. Tu vas t'épuiser toi-même. Et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Il était très stressé. Il en avait trop sur les épaules. Mais on lui donne un conseil. Est-ce qu'il accepte le changement? Ben oui, on s'entend qu'il accepte le changement. Parce que là, comme vous voyez, il y a l'alarme. Il y a plein de choses qui viennent vers lui. Il essaye de résister, mais ça l'envahit. Donc, il tombe sous le poids de l'épuisement. Il tombe sous le poids d'un excès de stress. Comment est-ce qu'on pourrait ramener ça à nos enfants? Quels sont les agents stresseurs de nos enfants? Parfois, là, et ça, je voudrais ne pas l'oublier, c'est un peu difficile, comme je dis souvent à mon mari, pour moi, d'avoir ces papiers. J'ai les papiers, mais je n'arrive pas à lire là-dedans. C'est vraiment prier pour moi pour que je sache souvent le faire. Donc, vraiment, c'est ce sur quoi moi, je voudrais insister. Ici, là, je suis allé aussi voir hein, David. Comment David a souffert, je ne vais pas tous les lire. Hein. David était tellement stressé. Hein. Vous savez qu'il s'est caché à un moment donné, là, lorsque Saül le poursuivait. C'est terrible ce qu'ils ont vécu. Hein. Ce que Jésus lui-même a vécu. On nous a dit quoi? C'était grave, hein, la façon dont la sueur coulait sur lui, comme des grosses gouttes de sang. Comme c'était, je me dis, c'était l'angoisse. C'est fou ce que Jésus a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, papa, s'il y a moyen que cette affaire-là s'éloigne de moi, fais-le. S'il y a moyen que ça s'éloigne, toutefois, ta volonté n'est pas la mienne. Ta volonté n'est pas la mienne. Malgré l'angoisse, malgré la peur, le stress fait partie de la vie. C'est à nous de le gérer. Donc, mon but ici, dans ces moments-ci, ce n'est pas de voir tous les coins et recoins. Comme je vous ai dit au départ, c'est d'avoir certains éléments qui vont être aidants. Qu'en partant d'ici, que nous options pour le changement, quel qu'il soit. Quel que soit le pas de bébé que nous aurons. Parce qu'il y a des enfants qui marchent à 8 mois. Alors son pied est petit. On s'entend que son pas sera petit. Il y en a qui marchent un peu plus tard, comme mon premier fils. Il s'est tapé 18 mois pour se décider à marcher. Donc son pas était un petit peu plus grand. Donc, les enfants et les adolescents peuvent être atteints de plus d'un trouble. Et un particulier dont je voudrais vous parler ici, c'est l'anxiété de performance. Et vous savez d'où vient l'anxiété de performance? Il vient de la famille, souvent. « Oh, mais c'est fou ce que tu as bien travaillé, tu as eu un A+. »« Yeah !» Il vient avec un B. « Mais comment tu as fait pour avoir un B? Pourtant, je t'ai répété toute la nuit, c'est quoi ton problème ?»« Ah, mais cet enfant, il va me rendre dingue. »« Hey, on passe avec C, est-ce que vous savez ça ?» Ok. Et il y a les enfants là. Moi, je vois ça à l'université, des jeunes de 18 ans. Elles sont anxieuses. Quand moi, j'entre dans ma classe, je leur dis, on va prendre une grande respiration, les amis. Je suis ici pour vous accompagner. Je ne suis pas ici là pour vous faire régresser. Je vous accompagne pour que vous soyez des meilleurs travailleurs sociaux. Calme, hein? On se calme. Ah, madame, je vous assure que c'est parce que vraiment, il faut absolument que je réussisse. J'ai dit, mais ça fait des années que tu es à l'école. Pourquoi tu ne réussirais pas puisque tu as déjà réussi? Pourquoi ça arriverait maintenant que tu ne réussisses pas? L'anxiété de performance, le poids que nous mettons sur nos enfants, il faut absolument que. Pourquoi absolument? Il y en a qui ne sont même pas faits pour l'école. Hein? Faites attention. Pourquoi je dis ça? Je parlais dernièrement avec mon fils, mon deuxième garçon. J'en ai deux. Et ce garçon a aujourd'hui 27 ans. Mais c'est un enfant qui est particulier. C'est un enfant qui est introverti. Et j'ai dit, Seigneur, si au moment où j'avais cet enfant, où je l'ai élevé quand il était tout petit, j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait autrement. Parce qu'il est complètement différent. Il est complètement différent. J'ai parlé avec lui. Il me posait des questions. Maman, pourquoi si, pourquoi ça? Je lui ai dit, fais pas le malin, il ne faut pas tout mettre sur ma tête quand même. Hein? C'est trop facile de dire, maman, tu n'as pas fait ci, maman, tu n'as pas fait ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu comprends? Donc, je rends grâce à Dieu et je discutais avec cet enfant qui a commencé son bac en administration. Et puis, quand la COVID est arrivée, 2020, quand il était en train de... Il devait terminer son bac en administration, il a complètement décroché. Il a dit, moi, je ne continue plus. J'ai dit, je peux juste savoir pourquoi, mon gars. Il me dit, parce que ce n'est pas fait pour moi. J'ai dit, tu as mis 3 ans pour te rendre compte que ce n'est pas fait pour toi. C'est toi-même qui as choisi ton affaire. T'es allé là, il dit, oui, maman, mais je me suis rendu compte. J'ai essayé de négocier. Je dis, chérie, est-ce que tu peux juste faire ce bac pour moi? Tu me le donnes et puis tu t'en vas faire, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit non. Qu'est-ce que ça a suscité en moi? Beaucoup de frustration, comme parent. Beaucoup de honte même. Mais vous savez ce qui a prévalu? C'est l'amour que j'ai pour lui. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, mon gars? Il m'a dit ce qu'il veut faire. J'ai dit, je t'accompagnerai dans ce que tu veux faire, bien que je n'approuve pas ce que tu fais. OK? Et moi, je l'accompagne. Ce même garçon-là, il allait se mettre en couple avec une fille. Je lui avais parlé du Seigneur, donne ta vie à Christ. Il m'a dit, maman, je ne suis pas prêt. J'ai dit, je suis tellement contente que tu me le dises. Parce que le Seigneur, lui, reste toujours prêt. Il est près de toi. Quand tu voudras, donne-lui ta vie. Donc, dernièrement, il se met en couple avec une fille. Et puis là, je viens lui rendre visite. Il sait très bien quelle est ma position par rapport à vivre ensemble. Là. Chez nous, au Cameroun, on dit, le viens, on reste. Viens, on reste ensemble. Donc, je viens lui rendre visite. Je dis, je vais dormir chez toi. Je suis venu dormir chez mon fils. Je désapprouve complètement ce qu'il fait. Puis là, au moment de partir, il me dit, tu sais, Tati, elle est enceinte. Je prends une grosse respiration. Est-ce que je lui donne une claque, là, parce que c'est ce qui bouillonne en dedans de moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je dis, ah ouais? Félicitations, mon grand. Ouais, OK, comment vous comptez faire ça? Il dit, bon, tu sais, maman, moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein? Je dis, ah ouais, moi non plus. Donc, je lui dis, tu sais quoi, mon Joe, je t'aime beaucoup, mais je n'approuve pas ça, et tu le sais. Mes félicitations. La petite a grandi, je suis allée lui rendre visite, et il me dit, maman, merci. Je peux juste savoir pourquoi. Il dit, pour ton écoute. Et là, je vois un enfant épanoui. Il est épanoui dans le péché. Hein? Ouais. Mais est-ce que c'est à moi? Parce que qu'est-ce que ça peut faire? Quand l'enfant n'est pas bien, on peut avoir la culpabilité comme parent. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Le Seigneur m'a délivré de la culpabilité. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que tu m'as donné la sagesse de faire ce que j'avais à faire. Le salut des autres ne m'appartient pas. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Le temps de Dieu n'est pas le mien. Mais je sais, comme le Seigneur m'a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourquoi je dois m'inquiéter? Pourquoi mettre un stress sur une société qui est déjà stressante? Tout ce que moi j'ai à faire pour cet enfant, c'est de lui donner mon amour. Faisons très attention à ce que nous exigeons de nos enfants, qui font qu'ils veulent absolument performer et qui sont souvent fatigués. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous allez accompagner votre enfant dans un match de foot, il reste combien de temps? Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous allez accompagner votre enfant au match de foot et que vraiment le dribble et qu'il tombe là et qu'il a l'air par rapport au stade, vous n'applaudissez pas pareil. Vous lui dites go, go, go. Même si vous voyez qu'il ne marque pas de but. Parce que le seul fait de lui dire « go », Dieu seul sait ce que ça suscite en lui. Le seul fait de Mimi que tu m'as dit, que tu as prié pour moi, Dieu seul sait le stress que ça m'enlève. L'anxiété généralisée, à partir du moment, quand est-ce qu'elle revient un trouble? Quand est-ce qu'elle, comme son nom l'indique, trouble? Et pas juste un petit trait d'anxiété qui passe là, qui vient et qui passe. À partir du moment où elle perdure, on a peur d'être dans la foule. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens... On voit des enfants qui manquent d'estime de soi. Savez-vous que l'estime de soi se bâtit à partir du moment où l'enfant est jeune? Faisons attention aux premières années de vie de nos enfants. De la façon dont notre famille aura été, nous bâtirons des gens qui ont une faible estime d'eux ou qui ont une forte estime d'eux. Aujourd'hui encore, et là j'étais dernièrement avec un monsieur de 65 ans, qu'est-ce que nous avons pris comme objectif? C'est d'améliorer son estime de soi. C'est de booster son estime de soi. Il me dit, j'ai jamais eu de compliments. On ne m'a jamais rien dit de bon. J'ai toujours été considéré comme quelqu'un de nul. C'est ma soeur qu'on a... Je lui ai demandé, quelles sont tes forces? Il dit, j'arrive même pas à trouver de force en moi. Pourtant, c'était un bel homme. Je trouvais que c'était un bel homme. Le seul fait de se trouver beau. Et quand je lui disais qu'il était beau, je sentais qu'il voulait rentrer sous terre. Et quand je lui disais, mais comment vous avez fait pour travailler? Je lui dis, mais vous êtes super intelligent. Je ne suis pas intelligent. Il refuse même le compliment. Il refuse ce qui lui appartient. J'ai fait une expérience dans mon église. Je commençais à... Je voyais les dames là, si je trouvais... J'aime beaucoup le jaune en passant, madame qui est en jaune là. Avec vous là, j'aime beaucoup cette couleur. Mais il va s'avérer pour la plupart du temps. Je dis à la madame, oh ta robe est belle, elle est jaune. Ah, oh, mais tu sais, je l'ai acheté au village des valeurs. Est-ce que je t'ai demandé où est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que je t'ai demandé où est-ce que tu l'as acheté? Je trouve qu'elle te va. That's it. Merci. Et puis elle me dit, attends, tais-toi, tu ne trouves rien. Parce qu'elle se sent obligée de me dire, moi aussi, que mais j'aime ton chandail. Est-ce que, pourquoi tu ne m'as donc pas dit? Donc, on n'est pas obligé de répondre par une affaire qui vient. On accepte le compliment. T'es belle dans ta robe, date. Oh, mais merci au Seigneur, merci, je me sens bien. Imaginez combien. Ça fait du bien. Et là, je vais vous conter une histoire, ok? On nous avait dit, quand j'étais encore au Cameroun, là, on m'avait dit qu'est-ce que la femme doit faire pour rendre son mari bien. Quand il revient du travail, c'est bien qu'il te trouve, et non pas avec une espèce de guenille où tu es sale parce que tu as travaillé toute la journée. Il faut vraiment que tu... Je dis, ah ouais, bon. Je suis d'une personnalité assez rebelle. Hein. Moi, je n'aime pas les affaires où on me donne trop de directives. Là. Je dis, mais tant qu'à faire, pour qu'on ne dise pas qu'Agnès a encore refusé. Moi, je suis allée au salon de coiffure, ok? Je me suis faite belle. Et quand mon chéri est arrivé, il m'a dit, salut chéri, est passé. Quoi? Et cette journée, cette soirée-là, nous avions un ami qu'on avait invité à souper. Puis l'ami sonne, dès que j'ouvre la porte, il dit, waouh, Agnès, ta coiffure est belle. Et là, mon mari se tourne, il dit, ah, j'ai dit... Je l'aurais zigouillé, ok? J'avais fait ça pour lui, il n'avait même pas vu. Ok? J'avoue que je n'avais pas encore de formation en travail social, en santé mentale. Mais je me suis dit ce jour-là, je suis allée devant le miroir. J'ai dit, Agnès, tu es belle. Et j'ai commencé à me dire que je suis belle. Vous êtes là, je ne sais pas combien, 50 ans. Dites-moi que je suis laide. Ça sera comme l'eau sur le dos du canard. Moi, je suis une belle femme. J'ai appris à m'aimer. Et les gens ou les enfants qui manquent d'estime de soi, ils n'ont rien à aimer d'eux parce que vous ne leur avez rien appris. C'est important de booster nos enfants. C'est important de voir vraiment le positif de nos enfants. Vous n'aviez pas l'habitude parce que vous, dans votre enfance, on ne vous a pas dit ça. Ça se peut. Moi non plus, on ne m'avait rien dit. Mais j'ai décidé de procéder au changement. Et je vais vous dire l'exemple que j'ai eu. J'avais mon fils qui avait 12 ans à l'époque. Et je venais de lire un livre. Je vous encourage beaucoup à lire ce livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. J'ai lu ce livre et je me suis dit, bon, il faudrait que je lui dise que je l'aime. J'avais pas. Chez nous, en Afrique, là, c'est rare qu'on te dise que je t'aime. Tes parents te disent, ils disent, mais tu sais que je t'aime, non? Arrête de me demander. Tu sais, mari ou femme, ils te disent, ah, mais tu sais que je t'aime, c'est quoi ton problème? M'amène pas les affaires des blancs, là. Donc, mon fils avait 12 ans. Quand je me décide à lui, il faut que je lui dise que je l'aime. Alors là, j'entre dans sa chambre. Il était assis dans son bureau. J'entre dans la chambre pour que cette affaire-là sorte. Je suis sortie. Je suis entrée une deuxième fois. Je n'ai pas eu le courage de lui dire. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne sorte pas? Je suis ressortie. Je suis entrée une troisième fois. J'ai dit, Agnès, tu vas le faire. Et je suis entrée. J'ai pris mon fils. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te dire que je t'aime. Et que je suis tellement fière de toi, mon garçon, mon bien-aimé. Adriel, c'est Adriel son prénom, ça veut dire vaillant guerrier. Tu es mon vaillant guerrier. Il a poussé sa chaise. Je sais qu'il se demandait, elle est folle, ma mère ou quoi? Il m'a regardé. Et puis il m'a serré comme ça. C'était un changement radical. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Est-ce que nous sommes pris avec nos habitudes, nos attitudes? Depuis ce temps, ça a changé. Mon fils a aujourd'hui 36 ans. Il ne peut pas arriver chez nous sans me faire ma maman chérie. Mes 5 enfants sont pareils. Ça a transformé leur façon. Moi, je n'ai jamais reçu ça. Alors, n'allez pas me dire que c'est parce que je n'ai pas reçu que je ne donne pas. OK? C'est d'abord qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants. Transformons nos habitudes, nos attitudes pour nos enfants, pour que ce soit des enfants qui transforment le monde. Le Québec a besoin d'être transformé. Le besoin a besoin d'enfants qui croient en eux et que nous avons aidé à croire en eux. La Bible nous dit, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Je vais vous parler ici de certaines affaires que j'ai déjà certainement dites ici. Qu'est-ce qui peut aider? La validation inconditionnelle. On ne dit pas à l'enfant qu'on l'aime ou il est beau parce qu'il a fait la vaisselle, parce qu'il a fait son lit. On l'aime pareil. Une validation inconditionnelle. Ouvrez la bouche et dites-le. Le diable veut nous fermer tout ça. Mais résistons. Parce que quand l'enfant ne fait pas son lit, là, on est trop rapide sur si tu fais pas ton lit aujourd'hui, tu ne feras pas ceci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des règles. Il faut bien me comprendre. Il faut très bien me comprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des règles ou qu'il ne faut pas donner aux enfants des directives. Je dis que tout doit se faire dans la validation, la compréhension et l'amour de l'enfant. Et qu'il sache. Il ne devine pas, il faut qu'on le lui dise. Ouvrez la bouche et parlez. Il faut savoir gérer notre propre anxiété. Parce que si nous sommes irritables, vers qui ça se tourne? Vers notre prochain, les plus proches, les enfants, la famille, le mari. Je ne vois pas comment, si je suis irritable, mon fils va venir me présenter son cahier. Ma tête est seulement dans mon travail, mon travail, mon travail. Comment je peux même l'écouter? Ou alors si un collègue m'a fait de la peine et que ça me ronge, je suis irritable. Je transpose ça à la maison. C'est un travail intérieur que nous devons faire. Je suggère aussi, c'est pas moi qui le suggère là, c'est les études. Hein, l'enseignement du monologue positif. Vous savez, je vous ai dit tantôt là, quand mon mari ne m'a pas donné ce que j'attendais, je suis allée me parler au miroir et j'ai dit, Agnès, tu es belle. Je l'ai pensé depuis. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie hein, qui auraient pu faire que je ne me trouve pas, je me trouve plus belle. En l'occurrence, mon bedon. Moi, j'ai quelque chose avec mon bedon. Là, j'aurais bien voulu qu'il parte un petit peu. J'ai essayé plein d'affaires, ça n'a pas marché. Mais comme j'aime manger, nul ne peut se prévoir de ses propres turpitudes. Je mange, le bedon, il reste là. Et je m'assume. OK? Donc, mais le monologue fait en sorte que je suis capable de me trouver belle malgré cette affaire-là qui m'embête. OK? Et je dis souvent à mes usagers, lorsque vous voulez parler à certaines personnes, on est ici au Québec. Hein, ici, quand on parle, on regarde dans les yeux. Hein. Au Cameroun, d'où je viens, quand on parle, si quelqu'un vous parle et que vous maintenez son regard, c'est que vous lui manquez de respect. Comprenez? Quand votre parent vous parle, votre père vous parle et que vous soutenez son regard, c'est un manque de respect. Mais j'arrive ici au Québec et puis je trouve que parler à quelqu'un, le regarder droit dans les yeux, Marc, quand je te regarde là, je suis captivé par ce que je te dis là. Tu fais attention à ce que je te dis. Ou je fais attention à ce que tu vas me dire parce que j'étais dans les yeux. Alors là, je disais aux gens, mais la meilleure façon de se parler, c'est quand même de regarder lorsque vous parlez pour que la personne sache que vous êtes poli. Mais quand vous devez vous parler à vous, comment vous allez vous regarder? Comment vous allez être poli si ce n'est devant le miroir? OK? Allons devant le miroir et parlons-nous. Ah, mais moi, je suis belle. Hein? Moi, je me trouve intelligente. Mais c'est vrai que ça fait bizarre au départ. Mais c'est un exercice que je demande aux gens de faire et que je vais vous demander de faire aussi. À longueur de journée, ayez un monologue positif. Vous allez voir comment, en journée, vous vous sentirez mieux. La bonne gestion des conflits parentaux est quelque chose qui impacte aussi la santé émotionnelle de nos enfants. Des parents qui se chicanent tout le temps, des parents qui ne montrent pas l'exemple, ça impacte l'enfant, que vous le vouliez ou non. Faisons attention à nos comportements, à comment nous nous sentons dans notre famille. Que ce soit ici, même en tant qu'adulte. Faisons attention à la façon dont nous gérons nos conflits parentaux. Une bonne santé physique aussi va avoir une conséquence positive sur la santé mentale de l'enfant, figurez-vous. Le fait de jouer avec lui, d'aller faire un peu de footing avec lui, des routines régulières vont aider à la croissance émotionnelle de nos enfants. Hey, je suis déjà à la conclusion. Parce que je voudrais vous laisser le temps de poser des questions. Donc, ne m'en voulez pas. OK? Je pense qu'on aura 10 minutes, ça sera possible, Marc? OK. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter seule l'anxiété. Elle est réelle, elle est difficile à éliminer. Mais on s'est dit qu'on irait comment? Baby step by baby step. Malgré nos efforts et en dépit de tout ce que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu, elle peut nous ronger et devenir un poids qui nous fait sombrer dans un abîme de solitude et de dépression. C'est le Seigneur qui rend l'impossible réalisable. Et moi, je veux me rappeler ce que nous venons de fêter là, la Pâque. Okay? Le vendredi saint, l'angoisse de Jésus, la difficulté, mais malgré ça quoi? L'obéissance. Et là, on est là dans le samedi soir, le samedi saint, c'est la noirceur, c'est la tristesse, le Christ est mort. Puis dimanche, la réjouissance, la victoire, on est passé à travers un tunnel assez noir. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, pour chaque parent, vous devez accepter d'obéir à la volonté du Seigneur, de faire un changement. L'angoisse du vendredi saint, l'angoisse du changement, la résistance, on ne veut pas changer. Mais qu'est-ce qu'il y a? La persévérance dans la noirceur, dans la difficulté du samedi soir. Pour aboutir au dimanche d'une bonne santé de votre enfant, d'une bonne santé mentale, non seulement de votre enfant, mais de vous-même. Mais il faut une motivation pour viser un changement. Et ça, Jésus l'avait. Jusqu'à quel point voulons-nous la santé mentale de nos enfants? C'est la réponse à cela qui va être déterminante pour notre capacité à nous motiver. Donc, j'ai laissé pour vous certaines ressources, parce qu'ici, nous avons le CLSC qui permet d'appeler quand ça ne va pas bien. Vous appelez au CLSC. Il y a de programmes spécifiques santé mentale jeunesse. Il y a des services pour la compétence parentale pour nous accompagner. Et il y a des services pour familles, enfants, jeunes qu'on peut faire. Et je vous ai donné aussi des sites internet qui vont vous donner les répertoires de toutes les ressources en santé mentale qui peuvent aider pour vous. Et il y a un site Première Ressources Aide aux Parents. Vous appelez, vous posez la problématique, ils vous aident. Il y a aussi le Naître et Grandir qui est un site qui aide beaucoup. Bien que ça s'arrête à 8 ans, ça peut être valable aussi pour beaucoup d'autres. Donc, j'ai mis en annexe des références et je suis prête à prendre quelques questions si vous le voulez bien. Merci. Donc, d'abord, ça va dépendre de la réaction. Est-ce que c'est un enfant qui crie comment il se passe, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant, est-ce qu'il fait des cauchemars nocturnes. Parce que des fois, lorsque l'enfant fait des cauchemars, là, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il a vu. Est-ce qu'il a été exposé, par exemple, à longueur de journée à la télévision, puis il a vu des affaires que, après, est-ce que c'est un enfant qui a la résistance peut-être aux règles. Donc, il faut comprendre qu'à cet âge-là, le cerveau de l'enfant n'est pas encore développé. Il n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse. Il cherche à s'affirmer. C'est à vous de savoir, par exemple, que lorsque je lui... Ben, on s'entend qu'on peut aussi être un petit peu souple hein, à cet âge-là, parce qu'il n'est pas encore assez mature hein, pour comprendre « je t'ai dit ci ou je t'ai dit ça ». Et là, je vous conseillerais beaucoup le site « Naître et grandir ». Qui parle beaucoup de tous les comportements, le développement de l'enfant de 0 à 8 ans, semaine après semaine. Okay? Et vous allez voir différentes façons de faire. Mais avec un enfant de 2 ans qui n'obéit pas à des règles, il faut que le parent aussi sache être ferme. Parce que des fois, quand il y a des enfants, ils crient. Hein? Oh my God! Je me rappelle, le fils du frère Valérie, là, il me donnait sa fille à garder. Quand elle commençait à crier, elle-même mettait ses doigts dans les oreilles. Et elle hurlait, ça me traumatisait, moi. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'avais peur que la DPJ ne vienne. Mon Dieu, il y a un enfant maltraité quelque part, là. C'est quoi son... Elle hurlait. Mais aujourd'hui, c'est une tellement agréable jeune fille. Mais là, c'est vraiment de savoir mettre des règles strictes. Des règles strictes pour certaines choses qui valent la peine d'être strictes. Mais ce n'est pas que, bon, si l'enfant se met à hurler, on ne veut même pas comprendre pourquoi il hurle. C'est important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Des fois, l'enfant peut hurler même simplement parce qu'il est mouillé et puis là, on a oublié de le changer. C'est la façon de parler de l'enfant, les pleurs. C'est comme ça qu'il communique à cet âge-là. Parce qu'il parle, je ne sais pas si ton enfant il parle à 2 ans, les miens, ils parlaient peut-être, des fois, ils parlent aussi à cet âge, des fois pas. Mais des fois, c'est sa façon à lui de communiquer une frustration, de communiquer une incompréhension. Okay? Peut-être sous d'autres cieux, je donnerais vraiment, on ne sait jamais, hein? Mais vraiment, nous avons quelque chose qui est monté, qui est l'approche parentale bienveillante, qui permet de comprendre l'enfant et de comment l'accompagner, sans pour autant prendre sur nous les problématiques d'anxiété, parce que quand l'enfant hurle, ça nous stresse aussi. Donc vraiment, avec ce site, Naître et grandir, là, ça va vraiment te permettre de voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau comportemental, quelles sont les crises qu'il fait et pourquoi il les fait, mais d'être toujours à l'écoute. De la façon dont l'enfant pleure, tu vas savoir qu'ici, il niaise ou bien c'est vraiment un besoin pressant. Je me rappelle, il y a des amis qui étaient venus une fois chez nous et puis on était en haut en train de parler et puis elle a entendu, il y avait les enfants au sous-sol. Et puis mon fils s'est mis à pleurer. Elle me dit, tu ne descends pas. Je dis, non, 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 je comprends ce genre de pleurs. C'est un petit niaiseux qui veut que je descende. Donc là, je ne suis pas descendu. Puis quelques temps après, ça s'était calmé. Mais la façon de l'intensité des pleurs, on peut savoir qu'est-ce que l'enfant veut faire. Qu'est-ce qu'il nous dit, comment on communique avec lui dans ce sens. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais ça dépend toujours de l'enfant d'abord avec les écrans. Je pense qu'on aura une conférence qui s'en vient là-dessus très bientôt. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que même scientifiquement, on dit déjà de ne pas exposer les enfants aux écrans avant 2 ans. Moi, je connais beaucoup de parents qui... C'est une façon de calme-toi, là. On lui donne le iPad, on lui donne l'enfant, et là, il joue. Il joue à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne pouvez pas jouer avec lui? Vous comprenez? Donc, l'exposition même de l'enfant aux écrans avant 2 ans, c'est nocif pour lui, pour son développement. Donc maintenant, à partir de quel âge, ça va toujours dépendre du parent. Mais pourquoi tu le mets devant l'écran? Qu'est-ce qui se passe? Quand il est devant l'écran, c'est à ce moment-là que tu veux faire la cuisine. Pourquoi tu ne l'impliques pas pour que vous fassiez la cuisine ensemble? Pourquoi tu ne l'impliques pas? Pourquoi est-ce qu'il est devant l'écran? Qu'est-ce qu'il fait devant les écrans? Et moi, je dis, il y a quand même des disciplines qu'on donne aux enfants concernant les écrans, même les plus vieux. Mais moi, je voudrais que tu vois l'écran de telle heure à telle heure. Il y a beaucoup d'enfants qui négocient, qui piquent des crises. Mais c'est à toi de savoir, on a dit qu'il faudrait que chaque parent ait une routine et des règles qu'il faut suivre. Donc, je pense que la conférence là va vraiment super bien vous intéresser, le temps des écrans et l'impact que ça peut avoir sur nos enfants. Moi, j'ai une étudiante dernièrement, l'intelligence artificielle, maintenant, qui fait, de mon point de vue, c'est quelque chose qui me rend dingue. Mon étudiante, elle parlait à peine quand on est en séminaire. Puis là, je donne un travail. Oh, waouh! C'est toi qui as écrit ça? Mais oui, madame. Ah bon? Ouais. Même la façon de parler, mais je n'avais aucune preuve que c'était sur l'intelligence artificielle qu'elle avait fait ce travail. Mais nous formons des travailleurs sociaux. Est-ce que quand elle va aller maintenant examiner quelqu'un, elle va faire comment pour que l'IA vienne poser la question à l'usager? Je l'ouvre cette petite parenthèse là, mais il y a la conférence qui s'en vient. Je pense qu'on donnera le lien à Marc et vous pourrez certainement aussi en profiter. Mais je trouve cette question pertinente parce que là, je l'avais abordée, c'est dans mes choses, mais c'est... La santé mentale est tabou. La santé mentale est tabou dans plusieurs familles. On a honte. J'ai travaillé en Outaouais, dans un petit village qui s'appelle Fort-Coulonge. Les gens qui sont ici, les Québécois, là, vous savez c'est où Fort-Coulonge? Ah ouais, vous savez même pas c'est où Fort-Coulonge, là. Vous comprenez? Donc, moi, j'étais étonné de découvrir Fort-Coulonge. Quand ils ont dit Fort, je me dis, mais on est en France, est-ce que... Mais c'est juste après Gatineau, là, une heure après Gatineau. Une heure et demie après Gatineau. Bon, j'ai travaillé là-bas. Et comme c'était un petit village, quand les gens venaient me voir pour les problématiques de santé mentale, ils rasaient le mur, hein. Ils ne voulaient pas que les gens sachent, moi je souffre de dépression, mais non. C'est parce que la santé mentale est tabou. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas consulter. Ils ont honte. On a honte de quoi, les amis? C'est une problématique comme une autre. Personne n'a même honte de personne, parce que les gens s'occupent de leurs propres problèmes. Souvent, vous pensez même que les gens s'occupent de vous, oh, il m'a vu, il t'a même pas vu, parce qu'il est rongé par ses propres problèmes. Ok? C'est nous qui nous faisons, c'est la culture. Je vous dis, quand je suis arrivé au Cameroun et que j'ai dit, quand le Seigneur m'a mis à cœur, c'est d'abord beaucoup de courage que je dise dans les églises, je voudrais parler du stress qui nous tue. Moi, j'appelle ça le petit cancer du siècle. Il nous tue à petit feu. Quand il conduit à l'anxiété, quand il conduit à la dépression, quand les parents sont irritables. Et ici, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que les personnes immigrantes sont plus sujettes encore à l'anxiété que les personnes locales qui sont nés ici. Et ce qu'on dit, et que l'étude même que j'ai lue, hein, quand je venais ici, c'est que les personnes, par exemple, qui n'ont pas fréquenté de garderie, les personnes qui parlent une langue autre que la langue, qui ont comme langue maternelle, une langue autre que le français, sont sujets à plus d'anxiété. Les enfants immigrants qui vivent du racisme à l'école, c'est fou ce qu'ils peuvent... Ils ne vont peut-être pas vous en parler. Qui vivent de l'intimidation, c'est terrible. Et si vous n'êtes pas attentif à ce que les enfants vous disent, à ce qu'un enfant commence à reprendre, à faire du pipi au lit, mais c'est terrible ce que l'enfant va vivre. Et les enfants sont sujets à beaucoup de choses, parce que quand ils n'ont pas l'approbation de leur père à l'école, parce que vraiment, ils commencent à changer d'attitude, ils commencent à voler, à mentir. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai manqué le coach? Vous n'avez pas été attentif. Lorsque le jeune enfant, il arrive à l'école avec... quand moi, je venais d'arriver ici, hein, moi, je trouve mon expérience super enrichissante. Je donnais comme lunch à mes enfants les œufs bouillis. Les œufs bouillis là, avec du pain. Ils revenaient avec la boîte à lunch. Donc là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se passait que quand ils comparaient les boîtes à lunch, la leur, avec celle des autres, ils avaient honte. Ils avaient honte, du coup, ils ne mangeaient pas. Du coup, ils étaient comme en train de quémander les choses des autres. Et puis, je vous assure que les enfants ne font pas de cadeaux. Les autres le trouvaient, ben toi là, tu mendies toujours ma nourriture. Vous vous rendez compte de ce que ça va avoir comme impact sur l'enfant? Faisons attention à ces petits... Je vous assure qu'en une heure, c'est difficile de tout aborder. Parce que ce soit le racisme, que ce soit la façon de vêtir l'enfant, que ce soit la façon même d'être à la maison, ça va impacter comment nos enfants vont être. De ce comment nous nous rendons à la maison, ça va aussi aider l'enfant. Et je me rappelle toujours ma fille qui a 25 ans, aujourd'hui qu'elle est en amour avec un gars. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec un Ivoirien? Les Ivoiriens, ils voient rien. OK? Je dis, qu'est-ce que tu fais avec... Ben, pour la taquiner, évidemment. Mais elle me dit, maman, tu vois ce gars-là. Je vois qu'il ressemble beaucoup à papa. Hey, franchement, de l'amour que vous nous montrez, j'espère qu'après 40 ans, nous serons autant amoureux que vous. Ça me fait du bien, par exemple. Les enfants regardent, les enfants observent. Mais que le Seigneur nous aide dans ce que nous avons, dans qui nous sommes, de leur transmettre le meilleur, l'amour que Christ nous a donné. Merci beaucoup.